오늘 우리 영혼에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans Marc chapitre 16 verset 14 à 20. Lisons à tour de rôle. Lisons à tous ensemble pour le dernier verset. Enfin, il se montra onze pendant qu'ils étaient à table et ils reprochèrent leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils voient quelques bravoises mortelles, il ne leur fera point de mal. Ils se poseront la main aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Prions pour pouvoir écouter la parole de vérité. Prions pour l'évêque qui va prêcher donc la parole de Dieu. Et prions pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Et prions pour qu'il puisse prêcher avec une grande autorité. Et prions pour que nous puissions recevoir cette parole par la foi.
하나님의 말씀을 듣습니다. 생명의 말씀, 진리의 말씀을 듣습니다. 내 영혼이 꼭 들을 말씀을 듣습니다. 성령께서 역사해 주시옵소서. 말씀을 대언하실 우리 감독님에게 말씀의 영들을 물러가게 도와주시며 신령한 천사들이 돕는 거룩한 예배가 될 수 있도록 도와주시옵기 원합니다.
하나님 아버지.
Et le Père ouvre notre cœur et nos oreilles pour que nous puissions écouter la voix du Saint-Esprit. Donne la puissance à ton serviteur. Je prie au nom de Jésus.
성령이 하시는 말씀을 들을 수 있도록 마음 예수 믿는 자
Celui qui croit en Jésus 자,
하나님 말씀의 요약을 다 같이
Dieu est vivant, il a envoyé son Fils au monde par qui il a sauvé le monde. L'efficacité du Fils, c'est le mérite de la croix. Pour bénéficier du mérite de la croix, il faut voir son sang et sa chair. Celui qui n'a pas obtenu le salut ne peut que périr, mais celui qui a été sauvé peut vivre éternellement. Celui qui croit doit faire l'expérience du baptême au nom de Jésus et être accompagné de signes. Le signe, c'est chasser les démons et guérir les malades juste après l'imposition de main. Le Seigneur Jésus nous envoie encore aujourd'hui le Saint-Esprit paraclet, même après sa montée dans les cieux. Il travaille avec nous, il ne faut pas donc être hypocrite, mais croire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, pour obtenir le salut, nous sommes venus au Seigneur Jésus. Il faut donc avoir des signes. Celui qui a obtenu le salut doit travailler avec Jésus. Si Jésus travaille avec nous, nous devons avoir des signes. Si nous ne sommes pas accompagnés de signes, nous ne sommes que des gens de religion. À ce moment-là, nous n'avons aucune promesse obtenue. Celui qui croit en Jésus n'est pas un homme de religion. Soit un avec Jésus, de même que Dieu et Jésus sont un, soyons un avec lui.
Amen.
Dieu est vivant. Il faut que nous soyons dans la connaissance, dans une connaissance profonde et parfaite lorsque nous parlons de Dieu vivant pour être dans une compréhension complète. Notre Dieu est vivant, il existe donc réellement. Cela signifie qu'il travaille depuis l'éternité, d'une manière continuelle. Il n'a pas créé le monde et les cieux. Un jour, il a achevé la création pendant six jours. C'est ainsi qu'il travaille d'une manière continue. Dans la Bible, il y a deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont reliés, mais le contenu de ces deux parties est complètement différent.
Moïse
Dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties. Il y a eu beaucoup de signes à l'époque aussi. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance hein, aussi. Et par ce, nos corps pouvaient être en vie et obtenir la bénédiction. Mais on ne pouvait pas être sauvé. Il n'y avait que des paraboles à l'époque de l'Ancien Testament. Il y a eu beaucoup de prophéties concernant la venue du Messie, du Christ. Et toutes ces prophéties ont été reliées. En ce qui concerne la venue du Christ, il y a eu déjà des paroles de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Même avant cette création, Dieu le Père était avec le Christ. C'était sa volonté même. Et ce Christ nous a été envoyé donc. Mais avant sa venue, il y a eu beaucoup de paroles de prophétie en matière de lui. Le Christ, c'est la mission des fils de Dieu. Donc, depuis l'Ancien Testament, la porte de l'Ancien Testament, il y a eu des paroles concernant sa venue. Mais Jésus-Christ n'était pas encore venu. Si l'ère de l'Ancien Testament, par exemple, c'est-à-dire si à l'heure de la loi, il y a eu une seule âme a été sauvée, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir dans le monde. Mais aucune âme n'a été sauvée avant la venue du Messie, de Jésus-Christ. Sous la loi, aucune âme n'a été sauvée. C'est pourquoi, enfin, le jour de la venue du Messie est venu, et Jésus est venu donc. Et il a accompli son travail, la volonté de Dieu Père. Et d'où le commencement du Nouveau Testament. Lorsque nous écoutons le sermon, il ne faut pas que nous soyons habitués au contenu de l'Ancien Testament parce que à ce moment-là, la parole de Dieu est sainte. La loi est donc sainte et spirituelle aussi. Hein, c'est ce que nous comprenons très bien parce que ce sont des mots de célestes. Et la loi aussi est juste. Dans la loi, il y a la justice. À travers la loi, on peut être sanctifié. On peut aussi ainsi être séparé de ce monde. Nous connaissons Dieu, n'est-ce pas? Il y a une grande différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. C'est la loi qui le fait. Hein? C'est la loi qui fait cette distinction. En ce qui concerne le Christ, il y a eu beaucoup de prophéties. À l'ère de l'Ancien Testament, mais il n'y avait pas l'obtention du salut à cette époque. Donc, si nous sommes concentrés tout simplement sur l'Ancien Testament, nous pouvons être dans la connaissance, dans la piété. Mais donc, nous pouvons être pieux, bien sûr. Et nous pouvons avoir beaucoup de connaissances utiles. Mais il n'y avait pas la transformation des âmes sous la loi. Il n'y avait pas la régénération. En plus, par la bouche des prophètes, la loi nous a été transmise. Mais la loi est différente de la parole de Jésus. Il est dit dans Jean 17, la loi vient de Moïse, tandis que la grâce et la vérité viennent de Jésus-Christ. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de parole concernée directement par la vérité, parce que la loi n'est pas la vérité. C'est la raison pour laquelle les paroles de l'Ancien Testament ne seront plus efficaces. C'est pourquoi il est dit déjà dans la Bible, la première alliance a des faiblesses. C'est la raison pour laquelle la première alliance doit s'expirer, parce que la loi n'est pas parfaite. Ce n'est qu'une parabole.
Donc,
Jean 1, 1, il y a eu la parole de Dieu au commencement. Mais il y a eu aussi la parole transmise par Moïse. Mais la parole de Dieu mentionnée dans l'évangile de Jean 1, 1 est différente de la parole transmise par Moïse. En version originale, dans 1, 1, il est dit, et la parole de Dieu mentionnée dans Jean 1, 1, c'est Logos. Logos, il est dit aussi dans l'Apocalypse, Logos, c'est la parole vêtue du sang de Dieu. C'est la parole vêtue du sang de Dieu, c'est Logos, selon l'Apocalypse. Donc, c'est la parole contenant le sang de Dieu. En revanche, la parole transmise par Moïse et le prophète, c'est l'Ema. L'Ema ne peut pas sauver les âmes, ne peut pas régénérer, transformer les âmes. Ce n'est pas possible. Et le salut ne vient que de Logos. Donc par la parole, nous avons été sauvés. C'est ce que nous disons. Alors, la parole de qui, en fait? Aux États-Unis, par exemple, moi aussi, j'ai observé cela aux États-Unis. Les églises baptistes américaines se sont dit que 80% des églises baptistes américaines ne lisent pas l'Ancien Testament. Ces églises n'utilisent jamais l'Ancien Testament comme le texte du culte dominical, du sermon dominical. Et alors, donc, eux, en fait, ils ne veulent pas écouter la parole basée sur l'Ancien Testament. Et même un certain nombre des chrétiens américains sortent de la salle du culte de l'Église pour ne pas écouter le sermon basé sur l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament s'est déjà passé. Alors, dans un certain nombre d'églises américaines, ils utilisent seulement le Nouveau Testament. C'est ainsi que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont complètement différents. Alors, si on utilise l'Ancien Testament, on va appeler Dieu Jéhovah. Et concernant la prière aussi, si nous sommes humbles, et via l'Ancien Testament, nous dirons à Dieu, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais si nous avons écouté la parole de Dieu, et ensuite Logos, mentionné dans le Nouveau Testament, et si nous devenons humbles, nous dirons, j'ai reçu la grâce, j'ai reçu la grâce. C'est ce qui est déjà dit dans la Bible. Donc, les membres de l'Église de vos testaments disent quoi? J'ai reçu la grâce. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il y a certaines personnes qui disaient « Je suis pécheur ». Avant la crucifixion, sa résurrection, sa montée dans dans les cieux, bien sûr, il n'y avait pas le salut des âmes. C'est pourquoi on a dit, même à l'heure de l'Ancien Testament, je suis pécheur. Mais après la résurrection des yeux, on a reçu la grâce. Donc, on ne dit plus que je suis pécheur. Qu'est-ce que la grâce? On a été déjà racheté par Jésus. On a reçu beaucoup de grâce. Et alors ensuite, Jésus-Christ est entré en nous. Jésus-Christ est entré en nous. J'ai aussi beaucoup de grâce. C'est pourquoi on peut être très humble. On peut ainsi faire cette confession avec humilité. Donc j'ai reçu la grâce. J'ai aussi beaucoup de grâce. J'ai reçu beaucoup de grâce. C'est une confession humble. Mais par contre, les membres de l'Église de l'Ancien Testament disent tout le temps, je suis pécheur, je suis pécheur. En fait, il y a une expression en chinois, soko deje, sok c'est s'asseoir, ko signifie la paille. Et deje signifie.
Ah, 상감마마 죽여주시옵소서 그러잖아요. 그러니까 석고대자 말은 죽여주시옵소서 그런 거예요. 하는 것처럼
하셔 텔레피시 donc ce code dit signifie tue-moi. Ce code dit signifie je suis pécheur en fait. Mais dans le Nouveau Testament, on se repent. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? Et Jésus est déjà mort, donc on ne peut pas dire à Jésus tue-moi. Mais sur la grâce de Jésus, nous ne pouvons qu'être humbles et nous ne pouvons que dire Dieu sur la grâce. Mais l'Ancien Testament, tu sais pécheur, et je ne peux que mourir. Mais l'humilité des membres de l'Église du Nouveau Testament, c'est j'ai reçu la grâce. Puisqu'on est déjà pécheur, on a besoin de sa grâce. Donc il faut que nous soyons au courant de cette vérité. Il faut connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Si on n'est pas dans la connaissance, on ne peut pas être libre, on ne peut pas être heureux. Et c'est ce que nous devons bien comprendre, en fait. La loi nous demande de rembourser la dette du péché. Le prix, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que mourir pour être libre du péché. Mais même si notre chair meurt, nous ne pouvons pas sortir définitivement du péché. Et alors, c'est une malédiction que nous pouvons obtenir de manière personnelle, mais le péché originel qui a commencé par Adam ne peut pas se terminer. Même si on tue des animaux, des boucs, des agneaux, le sang de l'animal ne peut pas racheter les péchés humains. Ça, ce n'est pas possible. Alors, Jésus est enfin venu au monde. Alors, il a été crucifié. Qui est Jésus? C'est celui qui est sans péché. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, cela signifie qu'il est sans péché. Seul Jésus peut ne pas pécher. Seul Jésus peut être sans péché. Mais les hommes ont des péchés. Depuis Adam, nous sommes tous pécheurs. Celui qui est sans péché et peut mourir, c'est contradictoire. Mais celui qui est sans péché est mort, en fait. C'était une contradiction. Avec la venue de Jésus, la loi s'est définitivement terminée. Il y a un grand nombre de prophètes qui prophétisaient la venue du Messie. Alors le Messie est enfin venu. À partir de ce moment-là, la loi n'est plus efficace. À partir de l'heure de Jean-Baptiste, c'est le royaume des cieux qui est envahi. Les hommes ont été péchés, les hommes ont été tous pécheurs. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas oser espérer le royaume des cieux. Mais à partir de l'ère de Jean-Baptiste, les hommes ont commencé à envahir le royaume des cieux. Celui qui a envahi peut l'obtenir. Par exemple, l'eau coule du haut, mais il y a eu un barrage. Donc, l'eau s'est arrêtée de couler. C'est ainsi que la loi s'est terminée définitivement. Alors, lorsqu'on prêche le sermon, celui qui nous vivifie, c'est quoi? Est-ce que c'est la loi ou les prophètes? Non. La loi et les prophètes nous conduisent à Jésus, mais celui qui nous sauve, c'est Logos. C'est la parole qui existait depuis le commencement. Qu'est-ce que c'était la loi? Qu'est-ce que c'était les paroles des prophètes? Ce sont les paroles transmises par des anges célestes. Les anges sont des esprits célestes, mais ils sont des esclaves, ils sont des serviteurs. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a parlé directement de la vérité. C'est ça la vérité, en fait. La parole de Dieu, c'est la vérité parce que c'est Dieu lui-même qui a transmis sa parole directement. C'est le logos, c'est la vérité. La parole d'homme n'est pas la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui prêche la vérité. Et je suis quelqu'un qui transmet la vérité. Si le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit parlera de la vérité. Mais Jésus-Christ a parlé seulement en parabole parce que nous ne pouvions pas supporter la vérité. Parce que pour supporter la vérité, il faut être sans péché. Et si on est sans péché, le Saint-Esprit peut entrer en nous parce que la vérité se transmet seulement par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer là où il y a des péchés. Donc, lorsqu'il y a eu la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il est dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, puisque Jésus-Christ n'a pas été glorifié, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas encore revenu avant la résurrection de Jésus. Avant sa montée dans les cieux, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Avant à la mise à la fin de la loi, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. En réalité, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est monté dans les cieux et il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit après l'avoir demandé à Dieu le Père. Alors, il est monté dans les cieux enfin et il nous a envoyé le Saint-Esprit et il le fait encore aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit nous a été envoyé par Jésus-Christ. Ce n'est pas grâce à nos prières que le Saint-Esprit vient. Ce n'est pas Moïse ou les prophètes qui nous envoient le Saint-Esprit. Ce n'est pas la loi qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. La loi ne peut pas le faire parce que la loi révèle les péchés d'une manière plus explicite. C'est pourquoi les pécheurs ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit parce que les pécheurs doivent être mis à la fin. C'est ça le contenu des prophéties. Mais vous et moi, nous écoutons la parole de la vérité. C'est un point très important. Lorsque vous écoutez la parole, vous devez être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons capables d'écouter la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. La voix du Saint-Esprit n'est pas seulement un son. Si c'est un son, tout le monde peut l'écouter, mais ce n'est pas un simple son. Il y a beaucoup d'écrits, mais il y a des poèmes, il y a des essais, il y a des romans. Mais le genre est différent. Pour leur roman, avec nos pensées, avec notre sagesse, nous écrivons des romans. Pour l'obtention du prix de Nobel, il faut être très philosophique. Le roman n'est qu'une fiction. Avec la tête, avec l'intelligence, avec le cerveau, nous écrivons des romans. Il y a un roman, donc le roman qui est basé sur l'imagination humaine. Il faut que nous soyons capables donc d'inventer des histoires si on écrit un roman. Mais les poèmes, en fait, on écrit les poèmes par le cœur, non pas par la tête. C'est ça la différence entre le roman et le poème. On écrit des poèmes par le cœur. Pour laisser, en fait, on écrit avec le corps, avec des expériences. Ah oui, le si. Donc, pour l'écriture, la donnée essai, il n'y a pas d'imagination. Si on ajoute notre imagination dans un essai, cet essai n'a pas de sens. Alors, on écrit des romans avec l'intelligence, avec la tête, mais on écrit les poèmes avec le cœur et on essaie des essais avec des expériences personnelles. Donc, on peut faire la distinction entre le poème, le roman et l'essai. Il y a une différence entre l'éma et le logos. Donc, est-ce que c'est la loi qui est les ordonnances relatives à la chair ou bien c'est la vérité transmise directement par le Saint-Esprit? C'est ça la différence entre la loi et la vérité. C'est ce que nous devons. Et alors, nous devons être capables de faire cette distinction. Il faut que nous écoutions la voix du Saint-Esprit qui s'adresse aux églises. Vous, les membres de l'Église Saint-Marc, vous êtes habitués à ce genre de paroles. Je pense que vous êtes capables d'écouter ce genre de paroles. De la parole de Jésus est vraiment importante, hein? C'est ce que je voulais dire. La parole du Seigneur est très importante, donc si nous croyons en Jésus, si nous croyons en Jésus, nous pouvons être sauvés. Mais si nous ne croyons pas en Jésus, nous ne pouvons pas être sauvés. Si nous croyons en Moïse, même si on observe toute la loi, même si on croit à toutes les prophéties, on ne peut pas être sauvé. Le salut vient seulement de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve son peuple du péché. Hein? Donc, la parole de Jésus, c'est quoi? C'est ce que vous écoutez, la parole du salut. Est-ce que vous avez été sauvé? Mais les gens disent, Moïse en a parlé, les prophètes ont parlé aussi de cela, mais il n'y avait que des paraboles à l'époque de l'Ancien Testament. Si nous sommes des leaders spirituels, il faut que nous connaissions la racine, l'histoire de la Bible. C'est pourquoi nous étudions la loi, mais dans la loi, il n'y a pas le salut. Donc, il faut que nous écoutions la parole de Jésus-Christ. Mais je pense que vous êtes tous élémentaires. Alors, si nous sommes élémentaires, nous avons peur des 10 commandements. Mais c'est la parole de Moïse. Hein? Ce sont les ordonnances relatives à la chair. Donc, si on n'observe pas, les 10 commandements, et qu'est-ce qu'il va se passer? Nous devons tous lutter contre le péché. Hein? La chair doit lutter contre le péché. Les 10 commandements concernent la chair, notre corps. Donc, il faut que notre corps se soumette à ces 10 commandements. Mais on ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Seulement dans la vérité, il y a la liberté, hein? Mais dans la loi, il n'y a pas la libération, il n'y a pas la liberté. Mais sous la vérité, on est libre, on est affranchi. Seulement dans la loi, il y a la liberté, l'affranchissement. Si on demeure dans la parole de Dieu, on peut être libre. Si celui qui est libre nous libère, nous serons libres. Si le Saint-Esprit nous affranchit de la loi, nous serons libres complètement. Donc, il faut que nous soyons vraiment corrects lorsque nous menons la vie de la foi. Et il faut que nous soyons dans l'exemplarité, hein, lorsque nous menons la vie spirituelle. Jean-Baptiste a été baptisé avec l'eau, mais ce baptême ne pouvait pas sauver les âmes. Alors, Paul, Jean-Baptiste nous a permis de confesser que nous sommes pécheurs. Alors, devant Jésus, nous entrons aussi dans l'eau, mais Jésus nous baptise avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous a baptisés avec l'eau seulement, mais Jésus nous a baptisés avec l'eau, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait vivre. C'est pour ce que nous avons été baptisés. Nous sommes entrés dans l'eau et nous sommes morts donc avec Jésus. Cela signifie que nous sommes morts par la loi. Parce que nous avons mis le joug de la loi, donc nous avons été esclaves de la loi. Cela signifie que nous sommes pécheurs, donc nous sommes morts sous la loi, mais nous sommes remontés de l'eau. Et cela signifie que nous sommes unis à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été mort sur la croix, mais trois jours après sa mort, il a été ressuscité. Alors même si nous remontons de l'eau immédiatement lors du baptême, cette remontée signifie l'union avec Jésus-Christ. Donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, cela signifie que nous avons été crucifiés sous la loi. Mais lorsque nous remontons de l'eau lors du baptême, nous avons été rendus à la vie avec Jésus-Christ ressuscité. Mais pourquoi il nous a ordonné d'être baptisés? Pourquoi? Parce que la loi, c'est la loi est un parabole, est un ombre. Donc la loi est un modèle, c'est une parabole. La loi est un modèle de ce qui est dans les cieux. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de construire des modèles selon ces indications. Le modèle signifie la parabole. Donc, en fait, au sens, au niveau religieux, le rite est une parabole, par exemple, est un modèle. C'est un modèle. À l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu l'offre des sacrifices, il y a eu des sacrificateurs. Donc, il y a eu déjà beaucoup de rites à l'époque de l'Ancien Testament. Donc, les gens de l'Ancien Testament ont poursuivi les ordonnances relatives à la chair, mais leur cœur est ailleurs. En apparence, ils étaient parfaits, mais c'était une hypocrisie. Leur cœur, leur intérieur était impur. Alors, les pharisiens, par exemple, eux, ils ont attaché beaucoup à la loi, mais ils ont été reprochés par Jésus parce qu'ils étaient hypocrites. Donc, les rites, en fait. Les rites sont religieux, mais ces rites se sont terminés par Jésus. Alors, dans les religions, le rite revêt une grande importance parce que la religion n'est pas spirituelle. C'est pourquoi les rites sont très importants dans la religion. Mais alors, les gens de l'Ancien Testament, ne sont pas des chrétiens. C'est pourquoi ils s'attachent beaucoup aux rites. C'est pourquoi eux, en fait, ils s'habillent d'une manière très stricte et religieuse, rituelle. Et alors, ils suivent bien les règles relatives aux rites. Mais c'était donc la loi écrite sur la tablette, non pas sur le cœur. Cette loi s'est terminée par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été crucifié en accomplissant toutes les exigences de la loi. Il a répondu à toutes les demandes de la loi. Quelle est la demande de la loi? C'est la mort, en fait. Alors, par exemple, si on tue quelqu'un ou bien si on haït quelqu'un, on est traité de la même manière sur la loi de Jésus-Christ. Alors, si on vole ou bien si on commet l'adultère, et on doit être condamné, jugé. Mais si on pêche par le cœur, on n'est pas condamné sous la loi. Mais sous la loi de Jésus-Christ, et les péchés commis même par le cœur sont aussi traités. Alors, si on commet l'adultère par le cœur, et on est déjà pécheur. Si on haït quelqu'un, on est meurtrier. Et si on veut voler par le cœur, on est déjà voleur. C'est la parole de Jésus. C'est ça la différence entre la loi et la parole, la vérité de Jésus. Donc, devant la loi, alors Jésus a renforcé la loi, en fait. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la perfectionner. Matthieu, chapitre 5, verset 17. La perfectionner la loi, qu'est-ce que c'est? Alors, Jésus est venu pour renforcer la loi, non pas pour l'abolir. La loi nous interdit de tuer. Alors, vous dites, vous réjouissez parce que vous n'avez tué personne. Mais si on a quelqu'un, on est des meurtriers. Donc, je suis meurtrier. Si je haïs quelqu'un, c'est ainsi que la loi de Jésus est redoutable. Beaucoup plus redoutable que la loi de l'Ancien Testament, parce que sous la loi de Jésus, tout le monde ne peut que mourir. C'est beaucoup plus terrible, redoutable. Même si vous êtes parfait au niveau éthique et moral, vous êtes sale, votre intérieur est impur, n'est-ce pas? Alors Dieu le Père va écrire tous vos péchés dans son livre de vie. Parce que l'âme des hommes est la lampe de Dieu. C'est ainsi que Dieu a mis sa lampe dans l'âme des hommes pour nous surveiller. Et le Saint-Esprit a entré dans cette âme. C'est ainsi qu'il le surveille. Donc, la fin de la loi, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La puissance de la loi, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. La puissance de la loi, c'est le péché. Et le prix du péché, c'est la mort. Et on ne peut que périr, on ne peut que mourir si on pêche. C'est pour laquelle Jésus est mort. Alors, tout a été terminé. Tous les rites se sont terminés par Jésus. Mais en fait, on a l'habitude de dire qu'il y a des rites à l'église, mais le culte n'est pas un rite. Est-ce que dans le culte, il y a des rites? Par exemple, lorsqu'on rend un culte lors de la cérémonie de mariage, on n'observe pas un rite, même si la méthode des rites qui existent dans la religion est semblable à ce que nous faisons à l'église. Le culte, il n'y a plus de rite dans le christianisme. Il faut que vous soyez responsable de cela. La prière n'est pas un rite. La campagne, par exemple, la prière que Jésus nous a enseignée, c'est pas un rite. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui profanent le nom de Jésus en priant d'une manière. Non attentive. Même si je nous a demandé de recevoir le baptême, celui qui a aboli les rites, celui qui a aboli tous les rites ne peut pas fabriquer un autre rite, ça c'est pas possible. Mais il nous a demandé de recevoir le baptême, donc ce n'est pas un rite, le baptême. Le baptême c'est un ordre de Jésus. Jésus nous a dit, j'ai obtenu toutes les autorités célestes et terrestres. Alors allez dans le monde entier, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les pour qu'ils enseignent-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est la parole de Jésus, c'est le Logos. La parole de Jésus, c'est quoi? En fait, il nous a demandé d'être baptisés. Donc, Jésus ne nous a pas demandé d'observer un autre rite en nous ordonnant d'être baptisés. Donc, il faut que nous comprenions bien le contenu de sa parole. Le baptême n'est pas un rite, donc. Mais le baptême par immersion, il faut que nous entrions dans l'eau. À ce moment-là, on ne peut être mouillé. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui hésitent à entrer dans l'eau. Mais dans le catholicisme, et, le baptême est un rite. Le mot baptême signifie être totalement mouillé par l'eau. Il faut que tout le corps soit complètement mouillé lors du baptême. Il faut que nous entrions à 100% dans l'eau. Il faut que nous entrions dans l'eau. À 100%, mais dans le catholicisme, on se fait baptiser par aspersion. Alors, c'est un rite. En fait, je pense que le pape agit d'une manière satanique parce que le pape fait de la vérité un rite. La parole de Jésus, c'est la vérité. Donc, le baptême, c'est la vérité. Le baptême n'est pas un rite. Il faut que nous croyons et il faut que nous soyons baptisés. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Il y a eu dit vierge, cinq folles, cinq sages. Mais cinq vierges sages pouvaient entrer participer aux noces avec son époux, avec leur époux, mais cinq autres vierges qui étaient folles ne pouvaient pas entrer. Alors, ces cinq vierges folles signifient la loi. Si on est sous la loi, et nous ne pouvons que périr par la loi. Et avant la venue de l'époux, on ne peut pas voir la résurrection. C'est ça la loi. On ne peut pas voir la résurrection du Messie, c'est ça, la loi. Quelle est la différence entre la loi et l'Évangile? Il y a un écart de 3 jours, parce que Jésus est mort sous la loi, mais il a été ressuscité. À partir de ce moment-là, l'ère de l'Évangile commence. Cinq vierges folles avaient aussi de l'huile, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà de cela, parce qu'il n'y avait plus de l'huile. Donc, c'est ça la limite de la loi. Eux aussi, ils attendaient le Christ. Ils attendaient aussi le Christ, le Sauveur. Mais ils ne pouvaient pas voir leur époux. Parce qu'elle manquait de l'huile, mais cinq autres vierges sages avaient de l'huile suffisamment dont elles pouvaient voir leur époux. Voilà donc là une grande différence entre la loi et l'Évangile. Il y a une autre parabole en la matière. Il y a un roi. et son fils devait se marier. Donc, le roi a organisé un festin. Et alors, il a invité les gens, mais ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas répondu à cette invitation. Mais cela signifie que les non-chrétiens ne peuvent pas écouter la voix de Dieu. Donc, ce sont ceux qui sont au-devant de Dieu qui peuvent écouter la voix des cieux, la voix de Dieu, la voix de Jésus, ou la voix des anges. Donc, les invités signifient les chrétiens, ceux qui croient, non pas les non-chrétiens. Donc, on parle maintenant de ceux qui sont venus au-devant de Dieu déjà. Donc, on parle déjà des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ont été invités. Mais ceux qui ont été invités par le roi et ne voulaient pas participer à ce destin, à ce festin, alors ils présentaient beaucoup de prétextes. Ils ont été bénis sous la loi, leur corps était confortable sous la loi et tout s'est passé bien sous la loi, donc ils espéraient plus de rien. C'est pourquoi le roi était très déçu par eux et il a demandé à ses subordonnés de faire venir tous ceux qu'il rencontrerait. Alors, même si le roi et les subordonnés ont invité les gens à ce festin, il fallait que les invités s'habillent correctement. Il y a eu donc des invités qui ne sont pas habillés correctement. Alors, le roi leur a demandé pourquoi vous ne vous habillez pas correctement. Alors, parce qu'ils pensaient que c'était un rite. Il disait, parce que je suis occupé, alors je n'ai pas eu le temps de m'habiller bien, mais ce n'était pas un rite. Donc, ce festin n'était pas un rite, mais c'était la vérité. Alors, ils sont entrés donc, dans le palais pour participer au festin organisé par le roi. Mais un certain nombre de personnes ne s'habillaient pas bien. Alors, ils ont été chassés dehors. Ils ont été d'abord frappés, ensuite ils ont été chassés dehors. Elles ne pouvaient pas participer au festin organisé par le roi. C'est ainsi que le baptême n'est pas un rite, mais c'est la vérité. Alors, comme vous êtes semblable à ceux qui ne s'habillent pas correctement, et il ne faut pas négliger la signification du baptême. Le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est basé sur l'expérience. Il ne faut pas que nous soyons conceptuels, il faut que nous soyons réels en faisant des expériences tangibles. Il faut que nous fassions l'expérience de la vérité avec nos corps. C'est pourquoi vous et moi connaissons la vérité parce que je l'ai expérimenté en recevant le baptême. À ce moment-là, on peut être sauvé. Est-ce que si on croit vraiment, est-ce qu'on a fait l'expérience de la vérité? Si on a fait l'expérience de la vérité, si on croit, on doit être accompagné de signes. Il faut chasser les démons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 28. Écoutez bien, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Si vous avez fait l'expérience de la vérité, si vous croyez vraiment, alors j'ai fait l'expérience de la vérité par mon corps. À ce moment-là, je pourrais manifester des signes. Qu'est-ce que c'est le signe?
Ah, 기분 좋다가 아니라
Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup chanté, ce n'est pas parce qu'on s'est réjouis. Alors, il faut que nous vainquions le diable qui a régné sur le monde. Il faut donc chasser les démons pour garder nos âmes. C'est le diable qui est le propriétaire de la maison. Il faut donc lier le diable pour vaincre. Pour que nos âmes soient en vie, il faut être capable de contrôler le prince de ce monde. Il faut chasser les démons. Il faut être capable, il faut maîtriser les démons puisque nous connaissons la vérité. Alors j'ai été en fait persécuté pendant des décennies. Alors si on croit, on ne peut qu'être accompagné de signes. Alors c'est moi qui a parlé en premier de l'universalité de la puissance. C'est pourquoi j'ai été énormément persécuté, mais j'ai suivi la Bible telle qu'elle. Mais eux, ils n'ont pas suivi la Bible. J'ai été en fait traité comme une hérésie. Mais au niveau biblique, qui est l'hérésie? Eux, en fait, ils observent des rites. Je pense que ce sont eux qui sont des hérésies. Moi, je suis la Bible telle qu'elle. Jésus-Christ, même s'il a été persécuté, il a fait seulement la volonté de Dieu le Père. Et on peut parler en deux nouvelles langues. Qu'est-ce que c'est de la nouvelle langue? Alors, le mot « Bangon » signifie la langue utilisée à la campagne. Il y a de différentes langues. En Corée, par exemple, il y a donc une langue qui est utilisée dans le quartier Hewa. Cette langue est très jolie et belle. Et alors ma femme, en fait, utilise cette langue. Alors, si on écoute les gens, on peut connaître leur origine. Mais après la guerre de Corée, c'est la langue utilisée au centre de la Corée qui a été sélectionnée comme la langue standard de la Corée. Ce n'est pas la langue de Séoul qui a été sélectionnée hein, comme la langue standard. Le président, l'ex-président Park Chung-hee est l'origine de la province Gyeongsan. Et après, sa prise de pouvoir, beaucoup de personnes de cette province sont venues à Séoul. Il y a eu une femme âgée qui a pris un taxi. Alors, le chauffeur de taxi a demandé sa destination. Mais cette femme âgée n'a pas bien compris sa question. Et alors, il y a eu une querelle entre le chauffeur de taxi et cette femme âgée. Et ainsi que, même si on utilise tous la même langue, le coréen, il y a beaucoup de différences entre... dans les langues qu'on utilise dans le pays. Donc on utilise une nouvelle langue. Si on reçoit le Saint-Esprit, cela signifie que Dieu nous a donné une nouvelle langue. Ce sont nos âmes qui utilisent cette nouvelle langue. Ce sont nos âmes qui pleurent, qui se lamentent. Si on utilise, utilise cette nouvelle langue donnée par Dieu. Parfois, on parle en nouvelle langue d'une manière assez désagréable. Mais quand même, c'est la langue donnée par Jésus. Alors, Jésus-Christ a parlé des trois signes de base, et c'est ce que nous devons manifester si on a reçu le Saint-Esprit. Jésus-Christ est monté dans les cieux et il travaille avec nous en nous montrant des signes. Il travaille avec nous lorsqu'on chasse les démons. On parle de nouvelles langues. Et alors, on parle de nouvelles langues selon le Saint-Esprit. Et si on pose la main sur les malades, ils seront guéris. Ils travaillent ainsi avec nous. Alors, si on croit en Jésus, si on se fait baptiser, si on a fait l'expérience de la vérité, si on croit en Jésus, on pourra manifester des signes et il travaillera avec nous. Il va travailler avec nous. Je prie en Jésus-Christ que vous puissiez agir avec Jésus. Il ne faut pas que vous ayez honte de chasser les démons. Alors moi, j'ai été reproché pendant 60 ans lorsque j'ai chassé les démons. Mais il faut que vous le fassiez comme moi. Si vous êtes malade, vous devez prier pour eux, pour vous-même. Et si vos enfants sont malades, si les membres de votre famille sont malades, vous devez prier pour eux. Vous devez imposer vos mains sur ces malades et vous devez les guérir parce que Jésus-Christ travaille avec vous et vous devez être capable de le faire. Levez-vous. Nous croyons en Jésus. Moi, j'ai expérimenté la vérité. Cela signifie que j'ai reçu le baptême. Je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser. Je suis homme du baptême. Cela, qu'est-ce que ça signifie? J'ai fait l'expérience de la vérité trois fois. J'ai fait l'expérience de la vérité. J'ai fait l'expérience de la vérité. J'ai fait l'expérience de la vérité. Donc, vous avez expérimenté la vérité. À ce moment-là, le Seigneur Jésus sera avec vous. Seigneur Jésus, travaille avec moi. Seigneur Jésus, travaille avec moi. Seigneur Jésus, travaille avec moi. C'est le Saint-Esprit qui le garantit. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour que le Seigneur Jésus travaille avec nous. Puisque j'ai expérimenté la vérité, aide-moi à travailler avec le Saint-Esprit, que je puisse travailler avec Jésus. Donne-moi la puissance nécessaire. Priez pour que vous ayez la puissance.